Valdo Pellegrin vient de publier « Montpellier, de savants en découverte » aux éditions Alcide, livre que nous avons présenté sur cette antenne, sur FM+, au mois d'octobre. En 18 épisodes, du square Planchon à l'école supérieure d'agronomie Place Viala, Valdo Pellegrin traque médecins, chimistes, scientifiques qui font l'histoire urbaine de Montpellier.
Chers amis auditeurs, bonjour. La dernière fois que nous nous étions rencontrés, nous étions dans la rue Germain, au 1 rue Germain, pour parler du collège de Mende. Eh bien, en poursuivant un petit peu dans cette rue Germain, nous passons devant la rue Saint-Mathieu, dans la rue qui s'appelait autrefois la rue Saint-Mathieu, car il y a l'église Saint-Mathieu qui est justement dans cette rue. Et nous arrivons à un nouveau bâtiment qui a reçu récemment le nom de la Panacée, mais qui autrefois était le lieu, le siège du Collège Royal de Médecine. D'ailleurs, à l'angle de la rue École de Pharmacie et de la rue du Calvaire, qui est une rue qui descend sur la gauche, eh bien, nous avons une grande plaque de marbre, un petit peu en hauteur, sur laquelle est écrit « Ancien Collège Royal ». Ouvert dès le Moyen-Âge à l'enseignement médical et siège de l'Université de médecine de 1498 à 1792. Alors justement, nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé sur ce lieu, qui est vraiment un lieu mythique, si vous voulez, de l'enseignement et des sciences à Montpellier. Eh bien, on se rappelle que les médecins du Moyen-Âge, qui recevaient initialement leurs étudiants chez eux, en leçon particulière, ont trouvé assez sympathique et assez agréable de temps en temps de donner des cours justement au collège de Mende. Et petit à petit, ils se sont dit que ça serait bien d'avoir une maison où ils pourraient se retrouver et donner leurs cours de façon plus collective. C'est ainsi que il semble que médecins, professeurs et étudiants se soient mis d'accord pour acheter vers 1469, on n'est pas très très sûr de la date, deux maisons sur la rue qui s'appelait la rue du Bout du Mont, qui s'appelle aujourd'hui rue École de Pharmacie, rue du Bout du Mont parce qu'elle est au sommet elle se termine par le sommet d'une côte. Alors il y avait là, sur le bord de cette rue du Bout du Mont, deux maisons. Une première maison assez petite qui était le logement du concierge et une deuxième maison qui n'avait que deux pièces, un vestibule et une salle de cours. Le vestibule servant aussi un petit peu de vestiaire pour les professeurs. Et puis à côté, il y avait un jardin avec un puits et un nombre d'arbres, sans doute des arbres des arbres fruitiers, un verger sans doute. Et une cloche également pour appeler sur le toit de la maison, une cloche pour appeler les étudiants aux cours. Vous savez qu'à cette époque-là, les cours pouvaient commencer de très bonne heure, carrément à 6h du matin. C'était pas anormal. Précisons que les examens et les cérémonies continuent, puisqu'on est encore à la fin du Moyen-Âge, continue à se passer à l'église Saint-Firmin, à l'église Notre-Dame-des-Tables et à la salle l'évêque, comme nous l'avions déjà vu. Alors il s'est produit, c'est un petit rappel que je fais, en 1494, un grave problème, le saccage du collège de Mende et même d'un certain nombre d'appartements et de maisons de professeurs, parce que figurez-vous que comme une épidémie de peste menaçait, la municipalité a décidé de supprimer le carnaval. Et alors les étudiants n'ont pas du tout apprécié ça, et ça a dégénéré. Vous voyez que les violences étaient aussi fréquentes au Moyen-Âge, et les étudiants se sont révoltés et ont cassé beaucoup de choses. Arrive 1498. Eh bien, depuis quelque temps, les professeurs donnaient des cours de façon un peu épisodique, il n'était pas très régulier dans leur enseignement, il s'absentait souvent pour aller à la cour ou aller faire des voyages, l'enseignement n'était pas d'une qualité extraordinaire, et le roi s'en inquiétait un petit peu. Et alors, sur les conseils de trois médecins de Montpellier, je les cite, Jean Garcin, Jacques Ponceau et Henri Piquet, eh bien, le roi, c'était Charles VIII à l'époque, se dit et convaincu par ses médecins que ça ne serait pas une mauvaise chose qu'il y ait quelques professeurs qui soient payés par le roi. À ce moment-là, le roi aurait un contrôle sur eux pour qu'ils fassent des cours régulièrement et des cours de qualité. Alors, on va assister à ce moment-là à ce qu'on appelle la création de quatre régences. Mais comme Charles VIII vient à mourir au mois d'avril 1498, eh bien c'est son cousin qui va régner sous le nom de Louis XII, qui va prendre les lettres patentes nécessaires au mois d'août 1498 en créant quatre régences, aujourd'hui on dirait quatre chaires, n'est-ce pas ? Quatre régences à l'université de médecine de Montpellier. Ces régences seront payées sur le grenier à sel. Le grenier à sel se trouvait à Montpellier, rue de la Sonnerie, puisque les sonniers sont les marchands de sel, n'est-ce pas ? Et donc, ils seront payés 100 livres par an sur le grenier à sel. Et le roi va nommer les quatre premiers régents, qui sont, je les nomme, Jean Garcin, Honoré Piquet, Robert Pierre et Gilbert Griffy. Voilà donc ces quatre professeurs qui, du coup, ont des comptes à rendre au roi, puisque c'est le roi qui les paye, et ils vont être obligés de faire un enseignement régulier et un enseignement de qualité. Et d'ailleurs, je rajoute, et vous allez voir que c'est assez pittoresque, aujourd'hui ça nous surprend, mais pour aller toucher leur gage, ces messieurs, ces professeurs sont obligés d'être accompagnés par quatre étudiants qui vont attester qu'ils ont bien fait leurs cours régulièrement et de qualité. Donc voyez, on se dit quelquefois que c'est dommage que ça ne soit pas encore comme ça. Mais enfin, voilà ce qui s'est passé à l'époque. Donc, création de quatre régences qui, si vous voulez, n'ont pas, au début, eu beaucoup d'importance. Les gens ne se sont pas rendus compte qu'en fait, c'était un peu une révolution. Mais petit à petit, les étudiants se sont aperçus que ces quatre régents étaient les professeurs les plus sûrs, les plus réguliers, et ont choisi d'aller suivre l'enseignement de ces professeurs. On continue également à payer quand même les professeurs. Les étudiants payent leurs professeurs. Et également, ces étudiants donc vont de plus en plus choisir d'aller suivre les cours des régents, ce qui va leur donner petit à petit de l'importance. À noter d'ailleurs que 100 livres, ce n'était pas énorme, et que certains des régents, si vous voulez, ont un peu perdu de leurs revenus. Entre 1526 et 1534, l'université de médecine de Montpellier a été agitée par une affaire que l'on appelle l'affaire de l'abbé. Alors l'abbé n'a rien d'ecclésiastique, c'est tout simplement un étudiant qui est élu par ses pairs chaque année, et il a un rôle d'accueil pour les nouveaux. Il a également un rôle d'animateur, c'est lui qui organise les banquets de début d'année, de fin d'année et un certain nombre de réjouissances. Mais il a un chapeau qui est l'insigne de son autorité, et également une chaire qui est une chaire en bois qui devait se trouver quelque part dans le bâtiment de l'université. Et il se trouve qu'il va arriver un jour où il y aura un abbé, l'abbé Gott, qui va un peu dépasser ses prérogatives et qui va même emmener quelquefois les nouveaux dans des lieux malfamés de la ville. Et les lieux malfamés de Montpellier, c'était le quartier des Bains, c'est-à-dire la rue des Étuves. Et donc, ça choque un petit peu d'abord les autres étudiants. Il va y avoir une bagarre entre l'abbé étudiant, l'abbé Gott, et le procureur des étudiants. Et finalement, les professeurs vont s'en mêler, puis même le consul, le premier consul de la ville vont s'en mêler. Il va y avoir des grèves, les docteurs vont suspendre les cours, les étudiants vont obtenir du Parlement de Toulouse qu'on suspende le salaire des professeurs. Enfin, vraiment, il va y avoir, ça va mal se passer. Ça va durer jusqu'en 1534, jour où un des professeurs qui s'appelle Jean Squiron va, comme il était un peu en délicatesse avec ses collègues enseignants de l'université, il avait une position, si vous voulez, d'arbitre. Et il va pouvoir réunir à la fois les représentants des étudiants, les représentants du corps des professeurs, et il va arriver à les mettre d'accord par un nouveau statut qu'on va appeler le statut de 1534, où on va régler un certain nombre de problèmes, notamment suppression de l'abbé. Là, c'est une suppression qui va être définitive. Ensuite, il sera remplacé par quatre étudiants choisis par les docteurs. Les cours vont reprendre. Il sera interdit aux étudiants de défiler, de faire des défilés en armes. Ça fait partie aussi des résultats de cette négociation. Et également, les banquets qui étaient devenus des espèces d'orgies et qui coûtaient en plus très très cher vont redevenir des repas normaux entre étudiants avec un prix qui sera plafonné dans ces statuts. Donc en 1534, on arrive à régler le problème de l'abbé et l'université de médecine retrouve un certain calme. Les choses se passent bien, mais pas pour longtemps, parce que il va y avoir de nouveau des incidents un petit peu plus tard, en 1547, pour l'élection comme régent de Jean Bocaux. Alors, il se trouve que le roi avait nommé les quatre premiers régents, mais il s'était établi une tradition. Quand un des régents venait à mourir, les trois autres se réunissaient chez l'évêque et ils décidaient ensemble, ils cooptaient qui allait devenir régent. Et c'est ce qui se passe en 1547. Denis Fontanon vient à mourir, un des régents. Il reste trois régents, Jean Squiron, Antoine Saporta et Guillaume Rondelet. Ils se réunissent chez l'évêque. Alors l'évêque n'était pas là, c'est son vicaire général. Mais enfin, ça ne pose aucun problème. Et il désigne Jean Bocaux comme nouveau régent. Et à ce moment-là, il y a une cabale des docteurs de l'université de Montpellier qui estime que c'est pas normal que Jean Bocaux ait été coopté. On verra tout à l'heure pourquoi. Et il porte l'affaire devant le Parlement de Toulouse. Et le Parlement de Toulouse va décider que désormais, lorsque un régent meurt, eh bien, le poste vacant de régent doit être mis au concours. Et comme ça ne s'était jamais fait auparavant, le Parlement de Toulouse précise exactement que c'est les trois régents vivants qui constitueront le jury, qu'ils devront proposer des épreuves, et que le Parlement précise exactement comment les épreuves doivent se passer, et précise également que tous les docteurs en médecine qui sont présents à Montpellier au moment de la mort du régent qu'il faut remplacer, eh bien, ces docteurs peuvent être candidats à ce concours. Le concours donc va se dérouler et on pouvait s'y attendre. Les régents n'allaient pas se déjuger. Ils ont déclaré, reçu premier à ce concours, Jean Bocaux. Alors évidemment, là, il y a une cabale des étudiants, mais en fait, un des concurrents de Jean Bocaux était le représentant du Parti catholique. Et Jean Bocaux, lui, était en quelque sorte le représentant du Parti protestant. Et avec Jean Bocaux régent, ça veut dire que sur quatre régents, il y en avait trois qui étaient protestants et un seul qui était catholique. Et voilà pourquoi les étudiants ont fait une pétition en disant que le concours avait été faussé parce que les régents avaient aidé Jean Bocaux pour que ce soit lui qui soit le meilleur en lui communiquant des renseignements sur les sujets qui seraient posés. Ce Jean Bocaud, d'ailleurs, n'a pas fini de faire parler de lui, puisque, comme vous le savez sans doute, il a été le premier protestant à être enterré à la mode de Genève. Il est mort en juillet 1561 et son enterrement s'est fait dans l'église Saint-Denis qui se trouvait sur la butte Saint-Denis, c'est-à-dire à peu près là où se trouve aujourd'hui le lycée Joffre. Et lorsque on a apporté son corps dans le cimetière de cette église Saint-Denis, eh bien, les archers du roi ont voulu empêcher ce cortège, estimant que c'était une manifestation protestante. Il y a eu une bagarre, cinq archers du roi ont été tués, et les autres sont partis. Et vous voyez que ce premier enterrement d'un protestant à Montpellier a été quelque chose d'assez violent et d'assez dramatique. Alors il se trouve que après ce problème de l'élection de Jean Bocaud comme régent, eh bien le Languedoc se trouvait assez mal, l'administration fonctionnait mal, l'université fonctionnait mal, et le roi, qui s'appelait Henri II en 1550, décidait de réunir l'assemblée des grands jours de Béziers. Alors c'est une assemblée de magistrats qui vont voir un peu ce qui ne fonctionne pas bien en Languedoc et qui vont prendre des décisions importantes. Et dans l'assemblée des grands jours de Béziers en 1550, il y a tout un chapitre des décisions qui concernent l'université de médecine. Alors voici quelques décisions qui vont être prises. Par exemple, le chancelier, désormais de l'université, sera élu uniquement par les régents. Donc pas par tous les docteurs, ni par l'évêque. Vous voyez, là, à ce moment-là, l'université commence à échapper à l'évêque. Elle devient plutôt une université qui dépendra du roi. Et donc les régents vont élire le chancelier et il n'y a qu'eux. Ensuite, le chancelier ne peut plus déléguer sa signature comme auparavant. Ça, c'est fait pour éviter qu'il y ait un trafic de faux diplômes. Et de même qu'on va créer un poste de trésorier pour l'université. Et il est bien précisé que le trésorier doit être quelqu'un d'étranger à l'université. Alors souvent, ça sera soit un commerçant, soit un notaire qui aura en charge les comptes de l'université. La charge de procureur des étudiants va être supprimée également et elle sera remplacée, le procureur sera remplacé par quatre étudiants désignés par les régents et les docteurs. De même que les grands jours de Béziers estiment qu'un cours de botanique doit être fait avec des herborisations. Alors on peut être étonné que les magistrats de Béziers, aient pris de telles décisions, mais en fait, avant de prendre ces décisions, ils se sont renseignés et vraisemblablement, c'est un des professeurs de l'université qui leur a soufflé toutes ces réformes qui vont être appliquées. Alors voyons un petit peu les nouvelles chaires qui vont être mises en place. On a vu qu'il y avait quatre chaires en 1498 qui avaient été créées. En 1593, le roi Henri IV va créer une nouvelle chaire qui sera une chaire de botanique et d'anatomie. Cette chaire sera occupée par Richer de Belleval. On lui attribua cette chaire sans concours, ce qui n'est pas normal, mais enfin c'est arrivé de temps en temps, c'est le roi qui le nomme. Et il va avoir comme mission surtout de mettre en place le fameux jardin des plantes. Et il se trouve que cette chaire, c'est une chaire de botanique et d'anatomie. Or, Richer de Belleval est botaniste, l'anatomie, ça ne l'intéresse pas du tout. On va le lui reprocher parce qu'il ne va pas faire de cours d'anatomie. Et on va, du coup, en 1595, Henri IV va créer une place de démonstrateur royal d'anatomie qui sera tenue par le meilleur chirurgien de l'époque qui s'appelle Barthélemy Cabrol. Alors, on peut être étonné que botanique et chirurgie soient dans la même chaire, Eh bien, ça s'explique par le fait que les herborisations se font au printemps et en été, et que les cours d'anatomie, eux, se font uniquement en hiver, quand il fait froid, parce qu'on a du mal à conserver les cadavres qui sont utilisés pour les dissections d'anatomie. En 1597, Henri IV va créer une nouvelle chaire qu'on va appeler chaire de chirurgie et de pharmacie. Il y a de plus en plus de garçons chirurgiens et d'apprentis pharmaciens. Et donc cette chaire est destinée à leur donner des cours théoriques. Ils ont des stages pratiques, bien sûr, mais on va leur donner des cours théoriques à la faculté de médecine. Mais alors là, il va y avoir un gros problème, c'est que les étudiants en médecine sont absolument hostiles à ce que des pharmaciens et des chirurgiens qu'ils méprisent viennent dans les mêmes locaux. Donc il va falloir trouver des locaux séparés, il va falloir faire des cours à des heures où les apprentis chirurgiens et les apothicaires ne croisent pas les étudiants en médecine, car ça ferait des bagarres, ils ne veulent pas les médecins ne supportent pas les chirurgiens. Et donc, dans ces conditions, on trouve une espèce d'étable pas très loin de l'université. Et le professeur, qui s'appelle Pierre d'Orthoman, accepte de faire des cours à 4 heures du matin pour que ces étudiants, apprentis, chirurgiens et pharmaciens, ne risquent pas de croiser des étudiants en médecine. Vous voyez où on en est. Voilà. Alors, si nous continuons, eh bien... Ah oui, en 1676, c'est assez extraordinaire, on va créer une chaire de chimie, mais ça vaut le coup que je vous raconte comment cette chaire va être créée. Il y a un jeune de Montpellier qui s'appelle Sébastien Matelafaveur, dont les parents habitent rue de l'Argenterie, au 25 rue de l'Argenterie, et ce Sébastien Matelafaveur est le fils d'un verrier. Et... c'est un autodidacte qui se passionne pour la chimie. Alors il a des fours, il fait des tas de médicaments qu'il prépare avec ses fours. C'est vraiment de la chimie. D'ailleurs, les pharmaciens vont lui faire un procès qu'ils perdront parce que les médicaments que prépare Sébastien Matelafaveur ne peuvent pas être faits par les pharmaciens qui n'ont pas l'outillage qu'il faut. Donc ça devient quelqu'un vraiment très fort en... quelqu'un de très fort en chimie. Et il est ami avec Antoine d'Aquin, qui est le médecin personnel du roi Louis XIV. Et en 1670, Antoine d'Aquin va obtenir une charge de démonstrateur royal de chimie pour Sébastien Matelafaveur, au prix de 600 livres par an, avec les mêmes avantages et les mêmes privilèges que les professeurs, les régents de l'université de médecine. Alors, scandale à l'université de médecine. Faut pas oublier que Matelafaveur était un autodidacte. Comment ce monsieur autodidacte peut-il avoir le même salaire et les mêmes privilèges que les grands professeurs de la faculté de médecine? Il faut trouver quelque chose pour sauver l'honneur de la faculté de médecine. Alors on va trouver ce quelque chose, c'est en créant en 1676 une chaire de chimie. Une chaire de chimie qui va chapeauter Sébastien Matelafaveur, démonstrateur royal de chimie. Et on va nommer dans cette chaire un certain Arnaud Fonsobre qui ne connaît rien à la chimie. Il ne connaît rien à la chimie, mais il sera titulaire de la chaire de chimie et celui qui fera tout le travail, ça sera Sébastien Matelafaveur. Voilà comment a été créée cette chaire de chimie en 1676 dans notre université de Montpellier. Alors ensuite, il y aura un laboratoire qui sera créé, mais beaucoup plus tard, en 1720. Là aussi, le roi va accepter de donner 6000 livres pour la création de ce laboratoire, à condition que la mairie donne autant d'argent. Et comme ça n'était pas suffisant, le titulaire de la chaire de chimie, qui cette fois-ci avait fait l'effort d'apprendre un peu la chimie, est un homme remarquable qui s'appelle Antoine Dédé. Et ce Dédé Antoine va abandonner pendant 5 ans son salaire pour le donner à la collectivité et améliorer terminer ce laboratoire de chimie. Et je voudrais terminer en faisant remarquer la chose suivante, c'est que ce Antoine Dédier, va faire partie du groupe de professeurs de Montpellier qui vont aller aider à Marseille lors de la peste de 1720. Et il y sera avec François Chicoineau. Et François Chicoineau n'était pas d'accord sur le plan scientifique avec lui. Antoine Dédier avait dit que la peste pouvait être transmissible par contact. Et il avait raison, et il l'avait démontré. Et Chicoineau disait « c'est pas vrai ». Et le jour où Chicoineau est devenu médecin du roi, il a fait casser Antoine Dédier, qui a dû abandonner sa chaire à Montpellier, qui est devenu médecin des galères à Marseille. Ceci sans qu'aucun de ses collègues ne bouge le petit doigt. Alors je voulais terminer ce moment avec vous sur Antoine Dédier, qui est un homme remarquable à qui il fallait rendre hommage. Je vous donne rendez-vous pour continuer à parler de ce lieu mythique que fut le Collège Royal, puisque après la Révolution, il va être occupé par les pharmaciens, et c'est ce que nous verrons dans notre prochaine émission. À bientôt et au revoir.